Amis auditeurs, dans le cadre de notre rubrique Pèlerin d'espérance, recevons le témoignage d'Hervé Cheuseville. Travailleur humanitaire pendant de très nombreuses années, il nous livre une toute dernière espérance qui brille de cette lumière dont nous avons tous besoin aujourd'hui.
À la fin de décembre 2024, je suis parti au Brésil. Je réalisais ainsi un vieux rêve, celui d'aller à la rencontre du peuple Enaonawe, un petit peuple autochtone de la grande forêt primaire du Mato Grosso. En effet, en 2021, j'avais lancé une action de solidarité afin de donner aux enfants de ce peuple marginalisé la possibilité d'apprendre. Mon voyage en bateau, en avion, en autocar, dura 3 jours et 3 nuits avant que je n'atteigne Vilhena, la ville la plus proche du village Enaonawe. C'est au cours de cet interminable voyage, après mon arrivée au Brésil, que j'appris le décès de mon père. C'est donc épuisé physiquement et émotionnellement que j'arrivais à Vilhena, où je pus enfin rencontrer Iholalare, le jeune homme Enaonawe avec lequel j'avais initié notre projet 3 ans plus tôt. Ensemble, nous achetâmes en ville le matériel scolaire ainsi que des médicaments essentiels destinés, eux, aux postes de santé de leur village. Puis, ce fut la dernière étape. 3 heures, sur une piste boueuse avec des ornières à n'en plus finir. Il faisait nuit noire depuis longtemps lorsque notre véhicule atteignit enfin le village. Après avoir traversé la grande esplanade centrale, il s'arrêta devant l'entrée d'une grande hutte familiale, une maloca, celle d'Iholalare, de ses parents, cousins, cousines, neveux et nièces, bref, de sa famille au sens large. En descendant de voiture dans l'obscurité, je fus pris d'une grande émotion, alors que j'étais entouré par de nombreux enfants et adolescents, dont certains étaient nos élèves, et que je réussis à reconnaître sans jamais les avoir rencontrés auparavant. La joie de cette première rencontre demeure pour moi un souvenir inoubliable. J'ai été assailli, enlacé et étreint de toutes parts. On me fit pénétrer dans la grande hutte dans laquelle je fus accueilli par des femmes et de nombreuses jeunes filles, toutes vêtues de leurs traditionnelles jupettes rouges vifs. On me fit asseoir sur une chaise de bureau, dont la présence me parut quelque peu incongrue dans cette vaste hutte au sol en terre battue. Des élèves, nombreux, vinrent me saluer les uns après les autres. Il y eut beaucoup de joie, de sourires et de rires. Dodo Kéré, l'un de nos élèves, m'offrit un petit pendentif en perles minuscules, figurant un D majuscule, D comme Dodo Kéré. Ayant quelque peu sous-estimé mon tour de cou, il eut quelques difficultés à me l'attacher. Je connaissais, entre guillemets, Dodo Kéré, depuis le tout début de notre projet, toujours souriant et jovial, très gentil. C'est aujourd'hui un jeune homme d'environ 16 ans. Ce premier contact, dans la pénombre de la maloca, dura près de 2 heures, durant lesquelles Dodo Kéré resta assis à mes côtés. J'étais toujours entouré de nombreux enfants, garçons et filles, qui se pressaient pour me voir, pour me toucher, pour me parler, dans leur langue que je ne comprenais pas, pour faire des selfies, comme on dit, avec moi, ou tout simplement pour me sourire. Une jeune fille voulut m'offrir un bracelet. Hélas, ma main et mon poignet étaient beaucoup trop gros. Il fut impossible de me l'enfiler. Dodo Kéré alla même chercher une calebasse remplie d'eau et du savon, avant d'entreprendre de me savonner la main et le poignet dans l'espoir que le bracelet puisse enfin glisser. En vain. L'un des élèves qui marqua le plus sa joie de me voir était Kahonoli. Voici quelques mois, il avait annoncé à tout le monde au village que désormais, il ne fallait plus l'appeler Kahonoli tout court, mais Hervé Kahonoli. Après cette première soirée, je passai près de 3 semaines dans ce village au milieu de la grande forêt. 3 semaines d'inconfort absolu. 3 semaines de piqûres d'insectes divers et variés, 3 semaines à patauger, souvent dans la boue lorsqu'il pleuvait, ce qui est très fréquent dans cette région amazonienne. 3 semaines à être fréquemment couvert de poussière lorsqu'il ne pleuvait pas. 3 semaines de forte chaleur, 3 semaines d'humidité, mais 3 semaines durant lesquelles je retrouvais la sérénité après le deuil qui venait de me frapper. 3 semaines durant lesquelles j'enseignais à ces enfants et adolescents du bout du monde. 3 semaines durant lesquelles je fus le témoin de rituels pour les esprits, des rituels venus du fond des âges, durant lesquels hommes et femmes psalmodient et tournent en rond autour d'un grand feu de camp, jour et nuit, le corps peint et portant des coiffes et des bracelets faits de magnifiques plumes multicolores. La soif d'apprendre de ces enfants et adolescents Enaonenawe, garçons et filles, fut pour moi comme un bain de jouvence et surtout une source d'espérance. Dans le monde entier, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Amazonie, en passant par le Caucase et le bassin du fleuve Congo, sans oublier les îles de l'Océanie, des peuples autochtones, héritiers de cultures plurimillénaires, luttent afin de pouvoir continuer à vivre sur leurs terres ancestrales et conserver leurs traditions. Ils font face à de puissants intérêts économiques et géopolitiques qui tous se conjuguent pour les chasser, pour les repousser toujours plus loin, pour les subjuguer, pour les marginaliser et pour les asservir. En janvier 2025, j'ai eu le privilège de partager la vie quotidienne de l'un de ces peuples, le peuple Enaonenawe. Ce séjour exceptionnel m'a renforcé dans ma conviction que la cause des peuples autochtones est une cause juste et légitime. En épousant cette cause, je n'ai fait que suivre, très modestement, la trace de grands précurseurs dont certains n'ont pas hésité à offrir leur vie pour la défense de ces peuples. En ce qui concerne les Enaonenawe, j'ai toujours en mémoire le lumineux exemple du frère Vicente Cañas. Cet humble jésuite, naquit en 1939 en Espagne. En 1961, il entrait au noviciat de la Compagnie de Jésus, où il exprima le souhait d'être envoyé comme missionnaire au Brésil. Le 3 octobre 1965, jour de la fête de Saint-François-Xavier, le frère Vicente reçut le crucifix de missionnaire au château de Xavier, en Navarre. C'est en 1966 que lui et d'autres frères jésuites arrivèrent à Rio de Janeiro. En 1969, le frère Vicente et le père Antonio Lassi sont allés apporter des soins médicaux au Tapayunas, un peuple amérindien vivant dans la vallée de la rivière Arinos, dans l'état de Mato Grosso. Ce groupe ethnique avait encore, à l'époque, des relations très difficiles avec le monde extérieur. Le frère Vicente Cañas poursuivit ce travail jusqu'en avril 1970 avec une quarantaine de Tapayunas. En 1971, les frères jésuites Vicente Cañas et Tomás de Aquino Lisboa parvinrent à établir un premier contact pacifique avec un autre groupe amérindien, les Miki. Cela amena ensuite les deux missionnaires à fonder le Conseil missionnaire indigène qui existe encore de nos jours. En 1974, Vicente Cañas et Tomás Lisboa établirent les premiers contacts avec les Enaonenawe. Vicente Cañas se consacra totalement à ce peuple à partir de la fin de 1975. Il commença à vivre parmi eux. À l'époque, il n'était que quelques centaines et il demeurait très fermé à toute forme d'influence extérieure. Il fut cependant progressivement accepté par ces Amérindiens qui avaient jusque-là vécu à l'écart du monde dit moderne. Vicente Cañas s'adapta pleinement à leur manière de vivre, à leurs coutumes et à leurs rites. Il expérimenta ainsi une nouvelle forme de présence missionnaire, respectueuse de la culture, des coutumes et du mode de vie de ce peuple autochtone. Durant cette période, Vicente Cañas travailla à la préservation du territoire de ses amis afin qu'il soit officiellement délimité et enregistré en tant que Terra Indigena Enaonenawe. Il avait bien compris qu'il s'agissait là d'une question essentielle pour la survie de ce peuple de pêcheurs et de cueilleurs. Une telle délimitation de leurs terres, ou plutôt de leurs morceaux de grandes forêts, aurait dû permettre de les protéger des grandes entreprises d'exploitation forestière, des immenses élevages de bovins, de la culture intensive du soja, ou encore d'autres activités le plus souvent illicites, comme celle des orpailleurs et des braconniers. Vicente Cañas, paya cet activisme de sa vie. Il fut assassiné, sans doute, le 7 avril 1987, à l'âge de 48 ans. Son corps, lardé de coups de poignard et mutilé, ne fut retrouvé que le 16 mai suivant, 40 jours après sa mort, dans la cabane solitaire qu'il occupait au bord de la rivière Juruena. Le 21 mai 1987, tôt le matin, il fut inhumé, selon les rites autochtones, dans son hamac et avec sa hachette. Des représentants Inaweninawe et ceux d'autres peuples amérindiens, ainsi que des missionnaires, lui donnèrent une sépulture tout près de sa hutte. Une simple et large pierre marque le lieu de sa tombe. Dans le petit bâtiment scolaire que nous avons édifié dans le village Inaweninawe, j'ai fait accrocher au mur une photo en noir et blanc du frère Vicente Cañas. Sur cette photo, on le voit avec ses cheveux longs, portant autour du cou une multitude de colliers traditionnels, ainsi que de longs pendentifs de coton accrochés à ses boucles d'oreilles, comme un véritable Inaweninawe, ce petit peuple autochtone de la grande forêt auquel il avait offert sa vie. Oui, les Inaweninawe, comme tous les peuples autochtones du monde, peuvent et doivent avoir un avenir dans notre monde ravagé par les conflits et le consumérisme. Nous avons tant à apprendre d'eux, en particulier leur gestion de l'environnement et leur connaissance de la forêt primaire et de ses plantes. Leur fréquentation en janvier dernier m'a permis de me ressourcer et de prendre du recul par rapport à tant de petites choses qui nous paraissent essentielles, mais qui en vérité ne le sont pas essentielles. Au début de mon propos, lorsque j'ai évoqué mon arrivée au village, j'ai parlé d'Hervé Kaonoli, cet élève qui avait décidé d'associer mon prénom au sien. Le dernier soir, avant mon départ du village Inaweninawe, un autre élève, nommé Yamalotikwa, âgé d'environ 14 ans, vint me voir. Il m'offrit une belle flûte traditionnelle. Ce geste me toucha au plus haut point. Ensuite, alors que nous cheminions dans l'obscurité, à travers la grande esplanade centrale du village, il me demanda, à brûle-pourpoint, le nom de mon père. Charles, lui répondis-je, ou plutôt Carlos, en portugais. Il me dit alors quelque chose qui pour lui semblait être une évidence. Il s'appellerait désormais Carlos Yamalotikwa. Cela m'émut encore plus que son cadeau, et c'est les larmes aux yeux que j'allais me coucher pour ce qui devait être ma dernière nuit chez les Inaweninawe. Ce séjour en terre qui ne m'est plus tout à fait inconnu m'a donc permis d'aborder la vie dans notre société de consommation et d'hypermédiatisation avec peut-être un tout petit peu plus de sagesse et de sérénité. Oui, en vérité, je crois être sorti renforcé de cette expérience qui m'a donné quelques raisons supplémentaires d'espérer. Là-bas, tout là-bas, dans ce village de la Grande Forêt, grandissent des enfants qui ont la soif d'apprendre, tout en étant résolus à défendre l'héritage qu'ils ont reçu de leurs aïeux. L'un de ces enfants s'appelle Hervé Kaonoli, alors qu'un autre se nomme désormais Carlos Yamalotikwa. Obrigado, Hervé Kaonoli. Obrigado, Carlos Yamalotikwa. Obrigado. Meus amigos do povo Inaweninawe, merci. Vous ne le savez pas, mais vous m'avez beaucoup apporté.